Jeunesse Influente, une émission présentée par et pour les jeunes, tous les mercredis, 14h-15h sur O2 Radio.
Bonjour à tous, bienvenue dans Jeunesse Influente. J'ai refait une petite injection de Botox comme la semaine dernière. Aujourd'hui, donc, dans le cadre de la quinzaine l'égalité et de la diversité, je reçois autour de la table, donc j'ai Maude du projet Luna.
Exactement.
Bienvenue. Et on a Lucie, je crois, qui
Exactement.
Nous rejoint.
Exactement, qui arrive.
Elle va arriver. Après, j'ai Alexandra et Marie, toutes les deux de la mission locale des Hauts-de-Garonne. Donc, toi, Alexandra, tu avais fait ta première la semaine dernière.
Oui, c'est ça.
Faut parler un peu plus dans le micro.
Oui, c'est ça.
Et Marie, c'est sa toute première.
Ouais, mes premiers pas.
Ok. On va remonter juste un tout petit peu le micro, voilà, comme ça vous pourrez... Hein. C'est magnifique. Excusez-moi, petit réglage technique. Donc là, on va parler de sujets assez importants. Donc Projet Luna, justement, on va apprendre à connaître aussi l'association donc, qui existe depuis 3 ans.
C'est ça, depuis 2019, mais en activité depuis 3 ans.
Ok, donc on va gratter un petit peu vos missions qui sont d'une grande importance.
Oui, hein. Merci.
Voilà, c'est un peu dans la thématique justement de l'émission d'aujourd'hui sur les violences intrafamiliales, les violences sexistes et sexuelles, et voilà. Et eh bien c'est parti, nous avons Lucie qui nous rejoint.
Bonjour.
Bonjour Lucie, bienvenue.
Merci beaucoup, bonjour à tous et à toutes.
Donc on a la team Projet Luna.
Exactement.
Et la team Mission Locale des Hauts-de-Garonne.
100% féminine.
100% ouais, c'est vrai. Bon, comme je disais tout à l'heure, je suis solidaire. Hein, on va faire comme si j'étais jeune et une femme. Voilà, ça fait beaucoup de modifications là, mais je pense qu'avec un peu d'imagination, on va y arriver. Ben, c'est parti, on va parler un petit peu. Alors ben, justement, Projet Luna, l'association, donc depuis 2019 et en activité depuis 3 ans.
C'est ça.
Parle-nous-en un petit peu.
Qu'est-ce qu'on fait chez Projet Luna ?
Oui, Kézako.
Donc Projet Luna, c'est une association qui a pour vraiment but général de lutter contre les violences dès le plus jeune âge. Donc c'est un vaste sujet.
Ouais.
Donc de manière un peu plus concrète, ça va être sensibiliser les 6-25 ans à adopter des comportements qui vont être non violents, non discriminants, avoir plus d'empathie et plus de responsabilité citoyenne.
D'accord.
Et pour ça, on est divisé en 2 pôles. Je vais commencer par ma partie et ensuite du coup je laisserai Lucie présenter la sienne. Moi je suis la chargée de formation, donc je m'occupe des formations à destination des jeunes adultes. Tous les adultes entre 15 et 25 ans, si ça intéresse, la mission locale d'ailleurs.
Oh oui, c'est la cible.
ça peut être voilà, des jeunes adultes lambda, entre guillemets. On a aussi un agrément pour faire les formations civiques et citoyennes des volontaires en service civique.
D'accord.
Et on peut intervenir aussi auprès des étudiants et étudiantes. Donc ces formations-là, elles sont majoritairement sur les thématiques de lutte contre les discriminations, de violences sexistes et sexuelles, et aussi on a un volet vraiment axé animation, outils d'éducation populaire. Okay. Qu'est-ce que l'éducation populaire et comment on l'utilise du coup pour améliorer notre société.
Super.
Donc ça c'est la partie jeunes adultes, et je vais laisser Lucie présenter la sienne.
Exactement. Du coup, nous, on a la partie... Enfin, moi, je suis coordinatrice de projet à l'association. Et moi, du coup, j'ai plutôt chapeauté tout ce qui est la partie animation sur un public âgé de 6 à 12 ans. On intervient, du coup, dans toute structure qui accueille des enfants, que ça soit école, centre d'animation, on intervient même après les spectacles jeunesse, on intervient au collège. Voilà, donc encore une fois, toutes les structures qui accueillent des jeunes enfants. Les animations, ça va être sous forme de cycle d'activités. Donc nous, on ne vient pas juste faire une activité comme ça, 1 heure et on repart. En fait, on a comme valeur de venir 1 heure pendant plusieurs semaines.
D'accord.
Pour que l'enfant puisse tisser un lien de confiance avec nos animatrices. Et donc, par la suite, ça va permettre la libération de la parole beaucoup plus facilement. Et nous, par derrière, malheureusement, le recueil de récits de violence qui arrive à peu près au moins 1 fois par semaine. Encore une fois, c'est malheureux, mais on est là pour ça. On aimerait ne pas être... là, qu'il n'y ait pas ce besoin-là, mais bon, c'est le cas sur le moment.
Malheureusement, c'est le cas.
Exactement. Nos activités, nos animations, on les regroupe sous 4 thématiques. Il y a les stéréotypes de genre, / consentement.
Ouais.
Il y a les émotions et les estimes de soi. On a également la cyberviolence et le droit des enfants.
D'accord.
Voilà. Et donc, ce sont vraiment des activités super ludiques où avant tout, il faut que l'enfant joue, s'amuse.
Ouais.
Et en fait, c'est le principe, quoi. Il ne se rend même pas compte du sujet... il ne se rend même pas compte qu'il parle de sujets parfois graves et lourds parce qu'il joue. Et, et nous, ça nous permet rapidement de repérer, malheureusement, les enfants en situation de violence ou en situation de conflit à la maison, conflit à l'école, etc. Ouais. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose maintenant ? Je pense qu'on est bon là.
On a juste oublié de préciser que du coup, l'association, elle a été fondée par Faten Ali Moussa,
oui.
qui, je crois, nous écoute en ce moment. On en profite pour lui faire une petite dédicace.
De Alger, en plus.
C'est ça. Voilà. Et la remercier, du coup, pour ce projet qu'elle a importé du Mexique. Et,
d'accord.
Ouais. Et puis, du coup, pour tout ce qu'elle fait pour nous tous les jours aussi.
Ouais.
Voilà.
Ah, c'est une très très bonne cause et là du coup avec les enfants je rebondis un peu dessus, ça permet un de détecter ceux qui sont malheureusement victimes de violences mais également du coup de sensibiliser les autres.
Oui exactement, c'est vrai, j'ai parlé beaucoup des violences et de comment on les détecte parce que c'est malheureusement en vrai notre quotidien, enfin en avoir conscience c'est vraiment souvent.
C'est très
quand on vient avec une activité voilà, mais c'est sûr que pour ceux qui vont bien, parce qu'il y en a qui vont bien, Dieu soit loué, à qui il n'y a pas de, enfin qui n'ont pas de problème dans la vie, enfin qui n'ont pas de problème dans la vie, tout est relatif.
Dans,
mais, enfin,
dans
voilà.
ce cadre-là, du moins.
Exactement. oui, on est carrément là pour de la sensibilisation, que au moins ils entendent déjà le mot consentement, par exemple, dès le plus jeune âge.
Ouais.
Donc c'est déjà, on est là pour planter vraiment des petites graines, et on espère que par derrière elles soient arrosées et qu'elles poussent.
Ouais.
mais au moins. Au moins entendre ces mots dès le plus jeune âge, que ça soit aussi sur les émotions, les reconnaître, les communiquer, comprendre que chacun, moi, à telle situation, je vais ressentir de la colère, toi, tu peux ressentir de la tristesse.
Ouais, ouais.
Voilà, donc c'est vraiment, c'est sûr que c'est de la sensibilisation avant tout qui, par derrière, permet le recueil de récits parfois violents et tristes.
Ouais, ça doit être terrible. Ça doit demander une énergie mentale forte quand même, parce que c'est vrai qu'on entend les bouts de chou, ils arrivent à en parler assez facilement quand ils commencent à se livrer.
Mais il y a plusieurs vraiment profils, il y en a tout d'un coup qui m'ont ça pas qu'apparé l'activité, qui m'ont balancé le récit comme ça de but en blanc, alors que ça faisait genre 4 semaines qu'on les voyait et qu'on n'avait rien détecté. Il y en a dès les premières heures vont venir nous voir. Il y en a même nous, on les repère dans la dynamique de groupe, dans la dynamique de classe. Il y en a que les maîtresses aussi sont déjà au courant, donc ils nous préviennent. Il y a vraiment plusieurs profils, mais encore une fois, via le jeu, l'enfant, en fait, les enfants adorent parler d'eux et on leur laisse rarement la parole.
C'est
en vrai, on les écoute rarement. Surtout à l'école, c'est très descendant. C'est écoute maîtresse, maîtresse va m'apprendre ça. Et c'est rare que le récit de l'enfant soit c'est rare que la concentration soit full sur l'enfant. Oui. Qu'est-ce qu'il raconte, son récit. Et les enfants adorent parler d'eux. Donner la parole à un enfant pour vous raconter son week-end, vous n'allez plus en sortir.
Et donc, les invités là, ils vont prendre le micro.
Alors là, t'en as pour toute l'après-midi. Là. L'émission, elle est faite.
Bon, on se fera. Je ferai la nouvelle Dorothée, peut-être. Et on fera une petite émission tout l'après-midi. On écoutera Bioman et tout. Bon, pardon, c'était ma génération. Mais, ça existe encore, je crois. Et là, gros botox, là. Oui. Mais si je m'appelle Dorothée. Et vous, les filles, à la mission locale, il y a des témoignages comme ça qui arrivent des fois sur des rendez-vous, des petites alertes, justement, sur des violences. Vous avez eu des cas comme ça ou pas forcément?
Moi, par exemple, j'ai eu une jeune fille avec qui j'avais des soupçons.
Ouais.
Mais bon, j'ai engagé la discussion. À un moment, j'y suis allée honnêtement en lui demandant. Et puis, elle m'a dit que non. Et puis, finalement, elle a justifié certaines choses que je pouvais trouver étranges.
Ouais.
Et bon, ces justifications avaient l'air quand même cohérentes. Donc, j'ai pas poussé plus loin. Et puis après, au fil de l'accompagnement, j'ai pas repéré d'autres choses.
Ouais.
Donc, c'est vrai que j'ai laissé ça comme ça. Mais c'est vrai qu'on peut se sentir démuni parfois pour aborder le sujet.
C'est vrai.
Et se dire à quel moment on creuse, à quel moment on laisse la personne tranquille parce qu'elle a peut-être pas envie de parler.
Ouais.
Donc voilà.
C'est vrai que c'est pas évident de déceler et du coup d'essayer d'engager la conversation là-dessus. Il y a des techniques que vous utilisez, vous, ou que vous apprenez aussi aux professionnels ou pas ?
Déjà, moi, je trouve ça super bien, tu vois, ce que tu disais, de directement poser la question. Parce qu'en fait, on peut. Toi, t'as ressenti des signes qui peut-être étaient justifiés par rapport à ton ressenti, mais vraiment demander clairement la chose, en fait, ça va être la manière la plus simple pour commencer.
Ouais.
Après, la personne répond ou pas selon la confiance qu'elle a envers toi, etc. Enfin, tout un tas de paramètres, mais déjà commencer par poser la question et me donner vraiment les termes. On avait passé là une formation avec le collectif Nous Toutes, qui rappelait beaucoup l'importance en fait de placer les bons termes, de bien qualifier en fait.
Oui.
Quand quelqu'un nous met une main aux fesses, bah c'est du, enfin un attouchement. Mmh. Et il faut dire, enfin c'est une agression. Il faut poser ce terme-là parce que c'est puni par la loi. Donc c'est hyper bien aussi d'être très clair sur les mots qu'on emploie et de le poser frontalement, quoi.
Ouais, c'est important.
Oui, exactement. Après, je pense que il y a à destination d'un public adulte auprès des enfants, c'est pas pareil. Il y a une phrase qui dit que il y a pas mieux qu'un enfant pour garder un secret, et ça c'est vrai. Et c'est pour ça que nous on utilise beaucoup les jeux et des moyens détournés, parce qu'un enfant on peut le braquer si on lui pose directement la question. Là, il peut tout de suite avoir peur. Mince, qu'est-ce qui va arriver à papa, maman, ça va retomber sur eux. Je veux pas. Et alors là, c'est fini, quoi. Il nous dira jamais ce qui se passe. Donc c'est pour ça que nous on utilise beaucoup les jeux, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, et comme ça ils ne se rendent pas compte. Et leurs émotions, encore une fois, juste poser la question, qu'est-ce que t'as ressenti? Quand on voit qu'un enfant, il ne parle que de la colère, de la tristesse, bon, bah là, on capte rapidement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, on devrait avoir la joie qui revient quand même le plus souvent.
Oui, j'espère, quand même.
Donc voilà. Ouais.
C'est dur, ça.
Hein. Et donc il y a vraiment des techniques, je pense, différentes. Faut voir en fonction de la personne qu'on a en face et du public, de l'âge.
Ouais.
Mais en tout cas, c'est ça, poser la question et puis surtout être dans une écoute active. C'est super important, c'est tout un... En vrai, je sais pas comment appeler ça, une pratique, une théorie qui est super importante, de valoriser la personne en face, la remercier, surtout pas inverser la culpabilité, comme a dit Maud, poser les mots, tu as été victime, c'est une agression, voilà.
Ou il y a qu'un chat, un chat, quoi.
Ouais, exactement.
Voilà. Puis vraiment valider le ressenti de la personne aussi. Comme tu disais, pas inverser la culpabilité et dire tu es victime et l'autre personne est coupable.
C'est ça.
Et parce que c'est quelque chose qui est difficile. Je pense qu'on sera peut-être amené à en parler derrière, mais dans des situations de violence, il y a tout un mécanisme qui est hyper compliqué. Et il faut le dire. Il faut dire que c'est pas la faute des victimes.
Mais c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est un peu la position qu'on a tendance à... que la société peut-être renvoie. Puis quand on est un enfant, on doit vite culpabiliser, quoi.
Exactement, tout le temps. Souvent, un enfant, il va se dire, c'est moi le problème. Si maman, elle me frappe, ou papa, ou bref, ou ton tata, c'est que j'ai fait quelque chose de mal, je suis un méchant garçon.
Oui, c'est ça.
Ouais, ça
c'est la punition qu'on lui fait croire qui est adaptée, quoi.
C'est ça, exactement.
C'est ça.
Ouais, complètement.
C'est une espèce de disquette qu'on met, c'est terrible.
Oui, c'est terrible.
Mais après, pour revenir aussi sur comment un peu libérer cette parole-là, je rebondis sur ce que disait Lucie tout à l'heure. On a, pour donner un exemple un peu plus concret, si vous voulez, par exemple, on a un jeu qui s'appelle le Trivial Pursuit du consentement, que Lucie et les animatrices aussi de Projet Luna font avec les enfants. Donc voilà, c'est le Trivial Pursuit comme on connaît, mais vraiment là, axé sur des questions de consentement. Donc tu me dis si je me trompe, Lucie, mais sur la sphère publique, la sphère affective, amicale...
Et familiale.
Et familiale, voilà. Et du coup, en fait, sur chaque carte du Trivial Pursuit, il y a une situation pour chaque thématique qui fait qu'on peut en discuter, en fait, avec l'enfant. Et là, il va pouvoir se reconnaître, s'identifier en utilisant ce que Lucie a dit tout à l'heure à chaque fois, dire « Ok, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé ? Qu'est-ce que vous ressentez ?» ou qu'est-ce que vous ressentirez. Et des fois, c'est hyper intéressant de voir, surtout beaucoup dans le consentement, sur la sphère familiale. On a une carte, moi, que j'aime bien, qui est « Tata, aujourd'hui, a envie de me faire un câlin, mais j'ai pas trop envie. » Et elle me dit « Oh, mais t'as mauvaise mine, viens me faire un câlin, mais j'ai pas envie. » Est-ce qu'il y a consentement ? Et là, du coup, on en parle aux enfants.
C'est
et
ça.
Les enfants... de toute façon, dans la sphère privée, le consentement est beaucoup plus compliqué à voir que dans la sphère publique. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir que sous couvert de ces thématiques-là, ils peuvent en parler ensemble, échanger, ou se dire « Ah, mais si, moi, ça m'arrive tout le temps. Et puis, comment tu te sens ? J'aime pas trop, je suis mal à l'aise. Ok, faut lui dire. » En rappelant toujours les règles du consentement.
C'est vrai.
Ouais.
Et on les a pas forcément, la disquette du consentement, parce que c'est vrai.
C'est vrai.
Moi, mes petits neveux, j'ai des triplés en neveux et nièces. Coucou, mes chéris. Et quand je les vois, je leur demande même pas si je peux leur faire un bisou. Je les prends dans mes bras, tac, 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 gros bisous, et puis hop, quoi.
Bah oui, oui.
Bon, ils se laissent faire. Mais c'est vrai qu'on ne se pose pas la question s'ils sont OK avec ça.
Dans la sphère familiale, c'est quelque chose d'hyper touchy, hyper compliqué. Les enfants, ils ne le voient pas. Bah non, c'est papy ou c'est tonton. Évidemment, je suis obligée de lui faire un câlin.
Mais
finalement, ça apprendre à l'enfant dès le plus jeune âge que son corps ne lui appartient pas, entre guillemets. Si on ne prend même pas le temps dès son plus jeune âge de lui demander est-ce que c'est OK un bisou, est-ce que c'est OK un câlin, ça, c'est la base des sphères après de violence, notamment sexuelle et sexiste, qui mène après à l'âge adulte au viol, aux agressions sexuelles, etc. Et donc la base, c'est commencer enfant à faire comprendre à l'enfant que son corps lui appartient, et même auprès de papa, maman, papy, mamie, en fait ça reste poli. Un enfant qui dit bonjour avec la main de loin, ça reste un enfant poli. Il n'est pas obligé de faire une étreinte à tout le monde quand il arrive dans un repas familial. Et ça, culturellement et socialement, c'est encore quelque chose qui est compliqué à admettre. Ah, et ce que je comprends totalement. Hein. Même moi, je faisais la bise à mon papy et à ma mamie, je ne me posais pas la question. C'est quelque chose à déconstruire, mais ça, c'est un travail de tous les jours.
Mais c'est logique, en plus, quand on y réfléchit. C'est vrai que c'est hyper logique. C'est déjà mettre dans la disquette des réflexes qu'il faut pas avoir, quoi.
Mais même à l'école, tout bête, les animateurs, animatrices qui disent tenez-vous la main en rang deux par deux. Enfant, il peut être en rang deux par deux sans se tenir la main.
C'est vrai.
Il y a plein de petits trucs comme ça quand on les déconstruit au quotidien. En vrai, il y a beaucoup, beaucoup de petits actes comme ça accumulés où en fait on apprend à l'enfant que son corps ne lui appartient pas dès le plus jeune âge. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Mais bon, en vrai. Moi, je trouve quand même que les enfants, le consentement, ils le comprennent beaucoup plus rapidement souvent que les adultes, avec le trivial poursuite du consentement, quand on leur explique sous trois règles, pour simplifier. On dit, quand je veux faire quelque chose, ou quand je veux toucher quelqu'un, ou je ne sais quoi, je demande, j'attends la réponse, et je la respecte, cette réponse. Et on explique consentement comme ça. À la fin de l'étité, les enfants, les trois règles, ils vous la sortent en béton, directement.
C'est
mignon.
C'est génial, hein.
Ouais, ça rentre hyper vite. Et puis en plus, au-delà de leur apprendre le consentement par rapport à leur propre corps, ça permet aussi d'acter le consentement pour les autres. Parce que si on nous a jamais appris qu'on doit nous demander pour nous toucher, on ne peut pas savoir que pour les autres, c'est pareil. Donc ça permet de limiter aussi les comportements violents dès l'enfance, mais aussi qui peuvent après s'accumuler à l'âge adulte, envers soi ou sur les autres. Donc c'est... C'est Projet Luna.
Wow.
C'est une de nos activités. Il y en a 30 comme ça. On pourrait faire toute l'après-midi.
Bingo, allez. Et vous, les filles, vous voulez... c'est des sujets qui ça vous parle un petit peu, ça, justement, l'idée de consentement et tout ça. Marie se lance.
Oui, ça me parle beaucoup parce que je suis maman de garçons.
Ouais.
Donc, de petits bonhommes. J'ai refait un coucou, moi aussi.
Bah oui, profite.
Bah oui. Je pense pas qu'il m'écoute.
Maman la star.
Maman la star. Et du coup, le consentement, en fait, on l'évoque mais depuis la maternelle. Alors, beaucoup sur les parties intimes. Déjà, en premier lieu, en disant que, en fait, c'est à lui, rien qu'à lui, que les seules personnes qui peuvent toucher, c'est papa, maman et un docteur, si papa et maman sont là. Et même après, c'est ce que... t'as fait un bisou, t'étais OK, t'étais pas OK, est-ce que elle était OK, si j'ai mis des graines, et en tout cas chez mon grand ça a fonctionné, je pense, et le petit, 4 ans et demi, je suis encore...
C'est en cours.
Je sais. On
pourra te passer notre triviale poursuite.
Pour une soirée jeu en famille.
Exactement. Oh, gros sujet.
Et le trivial poursuite, d'ailleurs, c'est une création du projet Luna, enfin celui-ci, oui.
Ouais, ouais, les cartes sont écrites, découpées, plastifiées, les plateaux sont faits main, tout est fait par
nous. On ressent le labeur derrière.
Ouais, la plastification de 100 cartes à chaque fois, c'est...
Wow.
C'est des après-midi qui sont pas très drôles.
C'est manuel.
Exactement.
C'est ça. Et ça paye après. Donc c'est chouette.
Mais c'est vrai que l'impact des jeux de plateau comme ça, c'est... alors Mission Locale, on l'utilise beaucoup, hein, sur tout, plein de thèmes d'ailleurs, hein, autre que ce genre de sujet-là. On met en place aussi des ateliers, il y a pas mal d'ateliers sur l'estime de soi, la confiance en soi, sur la santé mentale. C'est un sujet quand même qui est assez présent aussi à la Mission Locale, parce qu'on est confronté quand même à un public qui peut avoir besoin de ces outils-là. Du coup, on parlera du projet Luna maintenant aussi. Vas-y, Alexandra.
D'ailleurs, il me semble qu'il y a une pub en ce moment à la télé de prévention où il est dit qu'un enfant subit des violences toutes les 3 minutes.
Oui.
J'ai trouvé ça énorme. Je suppose que c'est exact.
On a des chiffres, moi, de...
Ouais, on a un petit peu de chiffres. Ouais. Et en plus, on en profite aussi pour rappeler qu'aujourd'hui, c'est la Journée internationale des droits de l'enfant, pendant qu'on en parle. Donc ça tombe super bien. Et ça nous fait encore plus plaisir d'être ici pour en parler, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et du coup, aujourd'hui, il y a la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui a, je vous invite à aller voir sur Instagram, sur leur réseau, qu'on a commencé une super campagne là-dessus. Enfin, superbe. Elle est terrifiante, c'est important.
Mais importante.
Qui rappelle du coup qu'en France, il y a 80% des victimes conjugales qui sont donc des mères. Et 143 000 enfants qui sont exposés à ces violences chaque année. Et on va partir sur la partie un petit peu plus, beaucoup plus triste. Mmh. Sur les 103 féminicides qu'il y a eu par exemple en 2023, il y a 124 enfants qui se sont retrouvés orphelins de mère suite à ces assassinats. Et qui rappelle aussi qu'il est hyper important qu'en fait les enfants, ils ne sont pas juste témoins de ces victimes. Mmh. Alors quand ça ne les touche pas directement, bien sûr, là on parle des violences intrafamiliales où ils ne sont pas directement victimes, mais qui ne sont pas juste témoins, donc à appuyer sur le fait qu'ils sont bien victimes parce qu'ils entendent les coups, ou même ils peuvent les voir, les cris, les menaces, les pleurs, etc. Et que ça peut mener derrière aussi à des problèmes de croissance, à de la dépression, à du stress post-traumatique, à des troubles alimentaires. Voilà, beaucoup de choses qui sont pas très chouettes, mais c'est important de rappeler aussi sur cette thématique, quoi.
Bien sûr, oui.
Et il faut avoir en tête, sur les violences plus sexuelles et sexistes, quand on arrive dans une classe, il y a 3 enfants qui sont victimes d'inceste, en moyenne, au niveau des stats.
Wow.
Il y a, par classe, c'est énorme.
Ah ouais,
c'est encore beaucoup trop tabou. Mais notamment sur Projet Luna, a participé à la caravane des violences sexuelles et sexistes contre les enfants qui est venue à Bordeaux. Donc c'est tenu par Arnaud, je n'ai pas son nom de famille, mais c'est un survivant d'inceste et qui fait comme ça, qui se déplace dans tout le territoire métropolitain et aussi outre-mer français pour justement parler de ces violences-là les mettre aux yeux du grand public, quoi, que ça existe, c'est réel, et que ces survivants-là se cachent parmi nous. Il y en a très peu qui en parlent, mais quand on sait la stat de 3 enfants par classe, c'est-à-dire que même nous, quand on était en classe, il faut imaginer qu'il y avait certainement des copains, copines à nous qui vivaient ce genre de violence innommable et terrible. Et donc la ville de Bordeaux a accueilli cette caravane-là, il y avait tous les acteurs un peu jeunesse et toutes les associations qui sont réunies lors de cette journée-là, et on a réfléchi tous ensemble dans comment faire pour prévenir, pour recueillir et pour réparer dans ce contexte incestueux d'inceste et de violence sexuelle et sexiste, surtout sexuelle faite aux enfants. Donc c'est aussi une réalité du terrain qui est triste. Nous-mêmes on la voit, on a eu des recueils de ce type-là, d'enfants qui nous ont confié être victimes d'inceste. C'est vraiment quelque chose de toujours terrifiant et terrible. Et il faut en parler, en vrai, c'est important. Ça commence par arrêter que ce soit un tabou, quoi. Faut le dire, faut que l'opinion publique soit au courant. Faut arrêter de le cacher et que les politiques s'en emparent. Parce que c'est terrible.
Ah oui, c'est un chiffre effrayant. C'est effrayant.
Et bien insister à chaque fois sur les interventions avec les enfants, justement, on essaye de beaucoup travailler dessus, identifier une personne de confiance. Parce que des fois, quand il y a des violences à la maison, la personne de confiance ne peut pas forcément être les parents.
Oui.
Donc aussi, avoir dans l'entourage une personne de confiance, l'identifier avec l'enfant, ça peut aussi être à l'école, ça peut être dans leur sphère privée ou à l'école, autre part. Et qu'ils sachent qu'ils peuvent en parler librement à cette personne de confiance et que l'adulte est là pour le protéger et pour valider sa parole aussi. Mais après, c'est aussi un autre travail à faire avec l'adulte. Mais là, c'était vraiment sur la partie enfant. Ouais, c'est hyper important qu'ils sachent que les adultes sont là pour les écouter.
Il faut que les adultes soient aptes à recueillir le récit. C'est le problème.
C'est
que souvent, on ne croit pas. Parce que c'est trop. En même temps, c'est tellement violent, c'est ça.
C'est ça. C'est, là, nous, sans être concernés, on prend ça en pleine face quand même. Mais c'est important, c'est grave important de communiquer là-dessus. C'est clair. C'est dingue que ce soit tabou, quoi.
Ouais. C'est tellement violent, c'est tellement... Puis c'est ancré, en vrai, c'est historique aussi. Enfin, c'est depuis des millénaires et des siècles. C'est terrible.
Mais alors, si un enfant nous raconte un récit comme ça, par exemple, qu'est-ce qu'on est censé faire? Enfin, quel est le meilleur numéro à appeler? Les parents ou je sais pas?
Ouais, oui, je pense que du coup, ça dépend.
Non, mais tu vois, s'il est à l'école, est-ce que tu...
Bah, normalement, du coup, c'est vraiment... il faut en parler aux institutrices, instituteurs, parce qu'il me semble... peut-être Lucie, tu diras mieux que moi, mais je crois qu'ils ont vraiment une responsabilité légale, vraiment, par rapport à la loi, de le faire remonter derrière au département, enfin, à la direction, de faire des signalements, etc. Mmh. Donc, quand on est professionnel avec des enfants ou des jeunes adultes aussi... Il faut toujours pouvoir le faire remonter derrière à qui de droit, quoi, la structure qui encadre, pour que ça soit remonté plus haut.
Mais
si c'est pas dans un contexte scolaire.
Si par exemple c'est par exemple des jeunes qui viennent à la mission locale,
il y a des ressources
c'est ça.
Là que j'ai pas en tête. Il y a la CIVIS, je vais écorcher le nom, qui CIVIS, s'occupe. Il y a des numéros, il y a des ressources, des associations qu'on peut appeler en mode j'ai reçu ce récit-là, l'enfant, mais même de violence de manière générale. J'ai reçu ce récit-là, qu'est-ce que je dois faire là maintenant? Et on vous guide. Alors là, je suis désolée, on ne les a pas en tête, mais on trouve ça très rapidement sur Internet, Insta. Si on tape récit violence enfant ou même inceste enfant, il y a les premiers numéros qui tombent. Il y a un numéro qui a été mis en place, même juste sur les incestes. Là, pareil, c'est un long numéro en mode 0800. En fait, tout adulte en soi qui est témoin ou qui recueille ce genre de récit, par la loi, il est obligé... de faire, enfin c'est après comment on appelle ça, non à personne en danger, exactement.
Ouais.
Donc en soi, même nous, on est responsable de ce récit et on doit en faire quelque chose. Mais pour ça, on a totalement des institutions, des associations qui nous guident. Encore une fois, je n'ai pas les... C'est dommage, on n'a pas noté.
J'avais juste noté le 119 pour enfants sans danger. Ouais. Donc déjà, c'est court numéro en plus à retenir. Et pour après, je pense qu'on peut être redirigé facilement. Ça va dépendre aussi après des territoires. Il y a plein de choses, heureusement, qui sont mises en place pour lutter contre ça.
J'ai encore une question, parce que c'est intéressant, mais parce que quand on dit enfant en danger, on dit jusqu'à quel âge? Par exemple, nous, à la mission locale, on a des jeunes à partir de 16 ans. Mm-hmm. Par exemple, est-ce qu'un jeune de 17 ans, il appelle ce numéro, 18 ans aussi ou...
Moi, je me baserais plutôt sur... En réalité, je ne sais pas... je ne suis pas professionnelle de ça, donc je ne peux pas te répondre avec certitude, mais je me baserais sur la majorité.
Légale,
donc 18 ans, et en se disant qu'en fait, même après, si je sais pas, t'as 21 ans et t'es démunie, tu les appelles eux, je pense qu'ils ont, j'espère, les ressources pour te rediriger derrière et pas te laisser comme ça en détresse, quoi.
Ouais,
donc, okay. Mais après, sinon, c'est un sujet un peu plus compliqué des fois, mais il y a le 17 aussi. Avec ses forces et ses faiblesses. Et aussi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'on pouvait envoyer des SMS au 14, qui, je crois, est relié à la police, mais qui fait qu'on ne peut pas les appeler. Enfin, quand les personnes ne sont pas en capacité d'appeler, on peut envoyer un SMS à 14.
Sur un danger où on ne peut pas parler, ou c'est un tac, un petit
SMS. Ça a été
SMS.
Mis en place après les attentats.
Okay.
Donc, 2015.
Ouais.
Oui.
Déjà.
Ouais, c'est ça.
Déjà.
Ouais. Pour justement où les personnes ne pouvaient pas appeler. Et du coup, il me semble que ce numéro a été mis en place à la suite.
D'accord.
Voilà. Parce que les personnes qui étaient en otage ne pouvaient pas juste décrocher le téléphone.
Oui, les personnes en situation de handicap aussi qui ne sont pas en mesure de parler. Et qui sont en plus beaucoup là, enfants ou adultes, qui sont encore plus touchés par les violences sexistes et sexuelles.
C'est ça.
Et c'est aberrant.
On a un chiffre, les personnes handicapées, c'est trois fois plus susceptibles d'être victimes. J'ai pas envie de dire c'est trois fois plus. Trois fois plus susceptible d'être victime qu'une personne qui est en situation de handicap. C'est beaucoup plus simple d'un point de vue, si je me mets d'un point de vue prédateur, d'abuser d'une personne handicapée où du coup sa parole est remise en question en permanence, on va pas forcément la croire ou elle est diminuée. Déjà au sein de la société, ce sont des personnes qui sont en minorité et qui sont déjà un peu exclues, même si on essaie de plus en plus de les inclure.
Qui sont isolées.
Et dépendantes, exactement.
Ouais, c'est ça. Et oui, du coup, c'est ça, ça avait raison, c'est 3 fois. Et après, sur les femmes handicapées, c'est 4 fois plus susceptibles de subir des violences sexuelles que le reste de la population féminine.
Wow.
Et on a, ouais, c'est aberrant, c'est 80% des femmes en situation de handicap qui ont été victimes de violences. Ouais, ah ouais, c'est... Ça fait peur.
Ouais, c'est normal.
Ouais, mais de toute façon, toutes les minorités, alors sur les personnes en situation de handicap, c'est énorme, parce que comme tu dis, il y a tout ce qu'on a dit là, il y a la dépendance, des fois, pas la possibilité de juste de l'exprimer, en fait, de le conscientiser, etc.
Ouais.
Et, mais c'est pareil pour toutes les minorités. Hein, c'est, je crois qu'on avait un chiffre aussi. Oui, il y a 75% des agressions islamophobes qui visent des femmes aussi. Donc pareil pour les personnes qui vont être racisées. Mmh. Et c'est énorme, en fait. Et qu'elles soient voilées ou non, c'est les femmes dans les actes islamophobes qui sont principalement visées.
Ouais.
Mmh. C'est vrai que dans ce monde... Être une femme, c'est quand même quelque chose, hein.
Ah oui.
C'est... Wow. C'est sûr, on parle de plus en plus des violences gynécologiques aussi en ce moment.
Oui.
Ouais. Voilà le point du mari, c'est horrible. Ouais. C'est ce que c'est ?
Non.
C'est vrai, tu veux savoir ?
Vas-y.
Mais j'ai appris, apparemment, c'est horrible. Mais quand t'accouches, y a beaucoup de femmes qui sont déchirées.
Oui.
Et du coup, le chirurgien, il recoue. Et en fait, sans demander le consentement à la femme, même parfois sans demander l'avis du mari non plus, il fait un point en plus, ou quelques points en plus, qu'on appelle le point du mari, pour que, en gros, le vagin soit un peu plus serré et que le mari reprenne un peu plus de plaisir après.
Mais
c'est horrible.
Non, mais...
Ce point-là est fait exprès pour
ça. Est fait exprès pour le mari, alors qu'il n'est pas utile pour la recoudre.
Que
et c'est l'enfer. C'est encore un autre sujet, quoi. Les violences dans le médical, même c'est connu que la physiologie de la femme a été beaucoup moins étudiée. Hein, c'est toujours basé sur la physiologie de l'homme.
Mmh.
Et donc, la femme, sur les maladies gynéco, il y a plein d'errances médicales tout le temps. Dès qu'une femme, on lui diagnostique, une endométriose, un SOPK, c'est des maladies qui sont malheureusement très peu encore connues, prises en charge. Et c'est une errance médicale pour toutes les femmes. Enfin, c'est encore une autre forme de violence où finalement, en tant que femme, on n'est pas considérée. Enfin, ça va mieux, encore une fois, c'est en train de libérer la parole dessus. Mais là.
Mais le combat continue, quoi.
C'est ça, les scientifiques ne sont pas forcément encore emparés à fond de. On n'a pas la même physiologie qu'un homme, mais on a nos particularités aussi avec nos systèmes hormonaux différents, etc. Mmh. Et donc, ce sont encore des maladies inconnues, mais c'est comme la charge contraceptive. Enfin, ça fait partie du même combat, tout ça.
C'est ça. Ou même au niveau de la santé, la santé mentale aussi des femmes. Un homme qui va arriver chez le médecin et en dépression, le diagnostic va être posé beaucoup plus rapidement.
Ouais.
Une femme, ça, peut-être que vous êtes fatiguée.
Vous êtes trop sensible, un peu hystérique.
Oui. Est-ce que vous n'avez pas vos règles en ce moment? Donc, c'est le combat. Mmh. Ouais, exactement. Donc, le gros combat, pour ça. Et les violences gynécologiques aussi.
Qui sont terribles.
Ouais, c'est ça, sur plein de professionnels qui sont, qui sont pas assez formés, qui sont par rapport à de la violence aussi, puisque ça rentre dans le cadre gynécologique, mais juste aussi, comme tu disais, par rapport au fait que notre système reproductif est pas... on s'est pas trop penché dessus, quoi. Les hommes se sont dit « Oh, c'est bon, ça ira
». Et ce qui s'est passé, c'est que les règles des femmes ont toujours fasciné... Pardon. Il faut que je répète.
Non, vas-y.
C'est bon.
Et du coup, on est parti du principe que tout ce qui était affection chez la femme, c'est principalement mental, venait des règles.
Mmh.
Et donc de l'utérus. Et donc, ça a expliqué tout.
Ouais.
Donc il y a eu des traitements qui ont été faits pendant plein d'années sur les femmes pour les empêcher d'avoir leurs règles, la tête en bas, machin et tout.
Ouais. Mmh. C'est historique. Hein.
Et ça, l'homme avait aussi des formes d'hystérie, l'homme avait aussi des problèmes de dépression, de bipolarité. Mais non, ça venait de la femme et de ses règles qu'on ne comprenait pas.
Ouais,
c'était vu comme impur, le sang.
Ouais.
Non, c'était terrible.
Dans certains pays, c'est encore le cas.
Ouais,
j'avais vu un reportage effrayant, je crois que c'est en Inde, je ne vais pas dire de bêtises, où les femmes, quand elles ont leurs règles, elles dorment dehors. Quoi. Et c'était le témoignage d'une qui s'était fait piquer par un serpent. Enfin, elle était morte, piquée par un serpent, parce qu'elle dormait dehors à cause des règles.
Mais tout bête, moi, je suis allée en Malaisie cet été, et j'avais pas pris assez de protection hygiénique. J'ai parcouru tout le pays pour en trouver.
Ah,
alors il y avait des serviettes hygiéniques, mais vu qu'on la Malaisie, on se baigne, spoil, et des pas de tampons, impossible de trouver de tampons.
Oh là là, d'accord.
Parce que là-bas, c'est pas accepté. De rentrer quelque chose dans son vagin, pénétrer son vagin.
Ah, c'est considéré comme un impur.
Et donc, c'est une galère, je vous ai parlé des détails. Mais bon, note à ceux qui voyagent, prenez des tampons, les filles.
Soyons prévoyants. Prévoyantes, du coup. Hein.
Mais c'est vrai,
je suis solidaire, quand même.
On a notre vision, du coup, de françaises et français, même d'occidentaux.
Oui. Oui.
Mais c'est différent à ce que tu disais, par exemple, en Inde, il y a plein de pays. Je vous invite carrément à lire, alors j'ai plus le nom des auteurs, mais ça s'appelle La moitié du ciel, qui a été écrit par deux journalistes d'investigation,
ouais,
qui ont parcouru un petit peu le monde et qui leur ont donné ce titre parce qu'ils sont partis du constat que s'il n'y avait pas tous les crimes faits aux femmes, parce que justement, elles sont des femmes, on serait deux fois plus sur Terre et que du coup, y a la moitié de la population mondiale qui est symboliquement au ciel de tous ces crimes. Et le parcours, justement, alors c'est pas une lecture super sympa parce qu'il y a beaucoup d'exemples de crimes, comme tu parlais là en Inde, de femmes qui sont isolées des autres parce que leur sang est impur, ou même après un accouchement, du coup, il y avait un témoignage de femme, c'était effroyable, elle a été mise dans une petite cabane à l'écart du village, après son accouchement, et du coup, elle avait eu des infections, etc.
C'est l'enfer.
Ça s'était empiré. Tout n'est pas horrible dans ce livre. Il y a aussi une grande partie de solutions de professionnels au niveau international, de chirurgiens qui vont lutter contre l'excision, femmes engagées aussi qui vont refuser en fait de se faire écraser par le patriarcat.
Bien.
Exactement.
Les mots sont dits.
Ça donne espoir aussi, et c'est hyper intéressant de voir selon les cultures, les sociétés aussi, comment ça se passe.
Oui.
Même si finalement on se dit même combat partout.
C'est ça.
Pas la même échelle.
Ouais, pas la même échelle. Ouais.
Mais c'est comme, je sais pas si vous connaissez Le coût de la virilité.
Non.
Alors c'est pas un livre, mais tu dirais comment, en mode, c'est une théorie, c'est quelque chose qui a été analysé.
Ouais,
étudié, c'est une étude.
Oui, c'est clairement.
C'est une étude qui montre en fait que en mode, le coût de la virilité, c'est tout ce que les hommes finalement font payer à la société. Mmh. C'est-à-dire que tout ce qui est pénitencier, frais de justice, frais médicaux après pour les victimes, et en fait ça a été calculé tout ça, de combien ça revenait à la société finalement, toutes ces violences perpétuées par les hommes sur les femmes, et c'est un chiffre... exorbitant, ouais.
Ouais.
C'est j'ai bien expliqué, ouais.
Ouais, 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 c'est ça, c'est complètement ça. C'est comment en fait le patriarcat engendre des hommes violents, hein, clairement, c'est le constat. Et du coup, quel est le coût il y a économique, il y a en matière d'accidents
sur la route. Exactement.
Vraiment, ça amène plein de sujets. Il y a aussi une petite partie sur la testostérone, des études qui ont été faites. Est-ce que c'est la testostérone, qui rend vraiment les hommes violents? Est-ce que c'est des accès de testostérone?
J'allais être vulgaire, mais pardon. Je l'y pensais peut-être fort. Je pense que, cher auditeur, vous avez réceptionné le mot. Oui, voilà.
mais du coup, c'est hyper intéressant de voir ça sur tous les plein de points différents.
Ouais.
C'est un super bon livre aussi. Il se lit plus facilement, pour le coup. Il est un peu moins trash que celui de tout à l'heure.
Okay.
Il n'est pas très grand, donc c'est chouette comme étude à voir. Il y a des chiffres aussi. Enfin, c'est vraiment une femme qu'on a eu marre et qui s'est dit « Ok, moi, je veux des données chiffrées sur tout ça. On va poser tout ça et on va analyser tout ça parce que j'en ai marre d'entendre « Ouais, mais moi, je suis un mec, c'est normal, je suis agressif. J'ai des... » Voilà.
Après, il y a des femmes aussi qui sont violentes.
Évidemment. On se focalise beaucoup sur les femmes victimes de violences, donc sur les hommes violents, parce que c'est, je veux pas
c'est
dire...
C'est une majorité.
Ah oui, c'est une énorme majorité.
C'est 90%,
ça existe quand même,
je crois.
Bien sûr.
Et il y a aussi le fait que les hommes victimes n'en parlent pas, il y a la honte, le tabou, c'est tout ça aussi.
Il y a moins de solutions pour eux aussi.
Oui. Mmh. Oui.
Les femmes peuvent être mises à l'abri, alors qu'un homme, il n'y a pas forcément de foyer.
C'est le problème de toutes les minorités, c'est que du coup, on s'attelle au gros du problème, et il y a forcément à côté des personnes qui sont démunies derrière. Mmh. Et c'est dommage, c'est sûr que c'est dommageable.
Oui, oui. Et plus ceux qui n'en parlent pas aussi, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté... Je suis un homme, je dois pas pleurer, je dois pas me plaindre.
C'est pas possible que ma femme me
frappe. Moi, je pleure, je me plains.
C'est très bien.
Et
un
doc.
Allié.
C'est bien de pleurer, ça fait du bien.
Ouais. Et puis c'est effrayant aussi de voir que le chemin est long, que c'est fragile, que c'est pas acquis. Parce qu'on voit bien aux États-Unis, on en a pas d'en parler, mais il faut dire qu'il y a un sujet quand même. Ouais. Avec la mèche blonde, je l'appelle la mèche blonde. Poil de carotte.
Ou la tête d'orange aussi.
Ou tête d'orange, ouais. Oui, c'est vrai. Aussi, oui, c'est vrai que ça lui va bien ça. Mais du coup, là, on voit beaucoup de langues. Comment ça s'appelle ce mouvement masculiniste, masculiniste?
Ah, les
incels. Incels.
Ah, ouais,
okay. Oh là là. J'ai vu récemment dans Quotidien un reportage justement sur eux, un qui s'exalte là sur X. Et mon Dieu, c'est pas possible d'entendre ça au 21e siècle. Quoi. Enfin, ouais, là, on revient vraiment au Moyen-Âge.
Une femme accepte d'être.
Le petit micro pour ma marie.
C'est quand les femmes acceptent de vivre comme dans les années 50.
C'est alors, ça, c'est un autre mouvement. Non, un autre je ne sais plus comment il s'appelle non plus.
C'est quoi
Incel, c'est le mec, toi, comme ça, bien costaud, bien viril, bien macho, et qui se revendique mec, et qui ont le pouvoir. Et là, ils sont très contents avec Trump. Et là, par exemple, le type de texte qu'il disait, c'est il changeait, c'est notre corps. Mais le slogan féministe, c'est mon corps m'appartient.
Oui, mon corps, mon choix, non ?
Mon corps, voilà, c'est ça. Mon corps, mon choix. Ah, oui. Et ben là, c'est votre corps, notre choix. Ah. Et il le dit avec une fierté. On sent vraiment le plouc de texan, quoi. Pardon, excusez-moi. Si elle, je pense pas ça de tous les texans. Je ne fais pas de généralité. Et ça se trouve, il est même pas texan. En tout cas, il est bien américain. Ça, c'est sûr.
Les Américains.
C'est effrayant d'entendre ça. Enfin, ouais. Et puis, c'est suivi, et repris. Ah
bah, oui. Et puis, il y a des conséquences, parce que le droit à l'avortement qui est remis en question dans je ne sais pas combien d'États.
C'est ça.
En 2020, c'est aberrant. Ouais.
C'est hallucinant. Et je pense que ça va s'aggraver, parce qu'il y avait quelques États qui résistaient. Mais là, du coup, il a tous les pouvoirs, donc potentiellement. Ça,
Il arrive sans garde-fou au pouvoir.
Oui.
Ça va être un sujet 4 prochaines années. Ouais.
Mais prochaine émission.
Oui, on a plein là. Bon, on va pas faire trop parce que s'il il a le bouton rouge, donc s'il vise le radio, on sait jamais.
Mais c'est vrai qu'il y a une grosse montée de ça, des incels et de vraiment cette revendication en fait de la masculinité toxique. Et tu vois, pour te donner un exemple là-dessus, t'as en fait vraiment des hommes qui proposent des cours, des formations pour être un vrai bonhomme, quoi. Ça fait partie de ce mouvement incel. D'accord. Être bien musclé, pas pleurer, et des trucs encore plus aberrants qui mènent à de la violence, et vraiment une haine des femmes qui a été en plus c'est intéressant parce que qui a été proportionnelle à la montée du féminisme aussi à côté, et je pense que c'est aussi en réponse à peut-être bien des sûr. Hommes qui se sentent pas très sécures.
C'est peut-être. Ça, en danger sur un siège éjectable, pardon. Oh, chier.
Peut-être qu'ils sont sensibilisés par certains mouvements, on ne sait pas.
Possible, ils sont susceptibles. C'est ça. Mon Dieu, quelle horreur. Et le mouvement féministe, là, alors pas féministe, là pour le coup, pas du tout même. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Aussi, bah justement, celle qui adopte le code des années 50.
Sur Twitter, là, qui fait oui. Ah, je ne l'ai pas.
Et qui fait des émules, enfin, c'est...
Wow. Française.
Ouais.
Oui.
Française.
Ouais, il y a une Française très connue, suivie sur les réseaux. Ah non, c'est aberrant, il y a une Française suivie sur les réseaux et qui revendique de... il faut être la femme au foyer, là, pour son homme, pareil, mon corps appartient à mon mari. Elle est hyper connue sur les réseaux. Vraiment, si on tape femme mascu, je pense qu'on la trouve direct française.
Marie fait une petite investigation. en direct. C'est effrayant, hein.
Ouais.
Ouais, non, c'est d'entendre ça, c'est vrai que c'est hors concept. Enfin, c'est vrai que j'ai pas la disquette, moi, c'est le genre de truc qui me...
Bah, c'est vrai que c'est aberrant, avec tout ce dont on a parlé en plus avant ça, là, de se rendre compte qu'il y a ça, ça fait peur. Et en plus, ça a vraiment... c'est très paradoxal, parce qu'en même temps, dans la lutte féministe, c'est accepter que chaque femme puisse avoir la vie qu'elle veut. Ouais. Donc si une femme a envie de rester au foyer et de s'occuper de sa famille, si elle est heureuse, c'est totalement ok, c'est
bien
super.
Sûr. Oui.
Mais par contre, ce principe de appartenance à son mari, etc.
Et puis de non-choix.
Ouais, c'est ça. Ça coupe des libertés qui sont existentielles, en fait. C'est pas possible.
Le féminisme, finalement, si on veut résumer, c'est avoir le choix et l'égalité dans la société salariale, accès à la santé, etc.
Bien sûr.
Ces deux mots, pour moi, qui résument en tout cas ma vision du féminisme, c'est le choix et égalité. Mais une femme qui est au foyer, c'est son choix et
qu'est-ce qu'elle est heureuse, mais moi je trouve ça trop bien. Et en vrai, c'est un boulot à part entière. Ouais, non, femme au foyer, faut pas le dénigrer, c'est un travail, elle devrait être payée.
Oui, franchement.
Il y avait une loi qui était en discussion, non, pour justement prendre en compte les mamans qui restent pour la retraite et tout ça, justement, il me semble. Hein. Je ne sais pas si c'est passé, je crois pas que ce soit passé.
Je
ne
pense pas.
Non, non.
Peut-être pas exagéré.
Avec, avec la politique actuelle en France.
Ça ne va pas de ça encore.
Mais ça, ça a complètement du sens. Hein.
Bah,
c'est, il y a plein d'études de façon, qui sont menées sur ça, sur la double journée de la femme, qui prouvent que le travail à la maison, ça double une journée de travail.
Une charge mentale.
Du travail
c'est
aussi.
Bien sûr.
Je pense que depuis qu'on parle de la charge mentale, ah, il faut que je me rapproche. Depuis qu'on... Maintenant, je te regarde direct. Hein. Depuis qu'on parle de la charge mentale, on prend en compte la double journée.
Ouais.
Mais avant ça, on n'en avait pas conscience. Mm-hmm. Oui. La lessive, c'était... Bah oui, c'est normal, on met dans la machine et elle n'a pas à se plaindre. Maintenant, elle a mis une machine à laver.
Et c'est ce que j'allais dire. Ah, okay. Ça prend moins de temps, c'est génial.
C'est bon, c'est génial. Alors, pour peu qu'elle ait un sèche-linge, alors là, c'est bon, quoi.
La privilégiée.
Elle pourrait même me dire merci, en fait. Hein. Non, mais c'est vrai.
Ouais, ouais,
et en fait, quand on a commencé à parler de la charge mentale, à dire, y a ça dans la charge mentale, ça, et à quantifier... Mmh. Ben là, on s'est dit, double journée. Ouais, la femme, peut-être que. Mais finalement, l'égalité des tâches, on n'y est pas. Mmh.
Mmh. Ah, ouais, carrément.
Oui.
Ouais.
Et puis carrément. Surtout, il y a le truc où c'est. Même la femme, avant et même encore maintenant, elle se l'est inculquée. Genre, ça fait partie d'elle.
Ouais, c'est ancré.
Ouais. Genre, moi, je suis désolée, papa-maman, mais je vais prendre votre exemple. Par exemple, mon père est à la retraite. Et c'est-à-dire qu'il est à la maison toute la journée. Ma mère a un travail de fou et elle fait quand même les lessives. Quoi. Ah, et elle rentre et c'est elle qui fait les lessives. Mais attention, mon père l'étend la journée.
Ah.
Attention, mais après ils sont heureux comme ça, c'est un système qui est tellement inculqué en eux, qui demanderait une déconstruction énorme, et juste ils sont assez âgés maintenant, et donc et c'est comme ça, donc il y a vraiment ce truc où c'est inculqué, c'est normal, c'est devenu genre un système, une dynamique mise en place, et ma mère dit, bah non, c'est pas une charge mentale, il est en ma lessive, attends, il est trop mignon. Oui, maman. Il a que ça à faire de la journée, mais c'est pas grave.
Mais c'est ça, c'est complètement ancré. Et là aussi, comme on disait tout à l'heure, c'est hyper important d'utiliser les termes. On entend beaucoup de femmes qui disent « Non, mais mon mari participe aux tâches ménagères, il m'aide. »
Oui,
mais,
il m'aide.
Ah, ouais. Ouais. Le mot voilà, « aider » réactions directement. Mon mari ou peu importe. Enfin, j'ai mon mari, mais voilà. Et pour rester sur le modèle hétérogenré. Mais, mais c'est incroyable. C'est pas de l'aide.
J'ai fait une crise de nerfs.
T'étais hystérique.
Et peut-être même que j'avais mes règles à ce moment-là.
Tout s'explique alors.
Un jour où je suis rentrée et où mon fils aîné m'a dit de façon très mignonne et très gentille, « Maman, on t'a plié ton linge. » Et là, mais j'ai vu rouge, je suis devenue folle. Je me suis dit, mais à quel moment c'est mon linge? Est-ce que c'est que mes vêtements que t'as pliés? Non, je ne crois pas. Donc oui, mais c'est exactement ça.
Ouais. On a une activité pour ça qui pourrait t'aider à la maison, qui s'appelle la toupie de l'égalité à Projet Luna, où en gros, on crée une toupie avec l'enfant, où il écrit sur sa toupie le nom des personnes qui vivent dans son foyer. Et le principe, c'est qui fait la vaisselle aujourd'hui? On fait tourner la toupie et sur la personne sur qui ça tombe, c'est elle de faire la vaisselle.
Ah,
Elias,
mal,
je t'inscris. Tu es inscrit, c'est bon.
Tu as une toupie à Noël.
Désolée.
C'est notre petite. Et on parle justement de la charge mentale. On leur fait comprendre en portant des gros ballons énormes, qui est le ballon vaisselle, le ballon ménage, le ballon sortir la poubelle, le ballon sortir le chien.
Ouais.
Et on essaye de leur faire un petit parcours du combattant. Tout seul, spoil, ils n'y arrivent pas à porter les ballons. Mais par contre, quand ils se les répartissent entre les ballons, ils arrivent à faire le parcours. Et on leur schématise comme ça la charge mentale. Mmh. Avec à la fin, la petite toupie à appliquer dans leur famille.
Génial. Hein.
Génial.
Ouais.
Donc ils repartent avec leur petite toupie.
Ils repartent avec leur petite toupie fait main.
Oh, c'est trop bien ça.
Bah, c'est Projet Luna.
Voilà. C'est bon, les parents qui sont contents de récupérer la toupie. Le père qui faisait rien, tu vois.
Voilà,
exactement.
Pour la peine, on va mettre deux fois son nom.
Non, mais en plus, c'est des outils, c'est ce qu'on fait aussi, on peut le faire avec les jeunes adultes aussi, ou même avec des adultes, ça marche, ça illustre bien, c'est des outils qu'on peut réutiliser à tout âge, en fait, pour illustrer ce truc de... En fait, tant que la personne n'est pas confrontée à ça et ne se retrouve pas à porter toutes ces charges lourdes en se disant « Ah, y a un problème, j'y arrive pas tout seul », c'est comme ça qu'on conscientise aussi.
Ouais, ça schématise.
Mmh. Ouais.
Ouais, complètement.
Donc, elles ont tous porté des charges lourdes en collectivité avec notre petite toupie.
C'est depuis peu hein, qu'on parle, c'est vrai, de ce que tu disais, Marie, le charge mental, c'est vrai que c'est pas, on entend parler de ça depuis longtemps, en fait.
Oui.
Cette prise de conscience.
Ouais, mais pareil, je pense que ça vient de toute l'avancée féminisme, en fait, on a eu le droit de vote, etc. C'était bien. Wow. Et ouais, le droit d'avoir un compte en banque, de ne pas appartenir à son mari. Et puis, en fait, au bout d'un moment, on aborde des sujets qui, c'est là que ça se divise, qui pour certaines personnes sont vous avez déjà tout ça, machin, mais qui restent plus, enfin, qui sont plus spécifiques, on va dire, dont la charge mentale. Mmh. Et au fur et à mesure, on arrive à affiner. Et maintenant qu'on a eu le gros, eh ben, on peut se répartir sur des petits détails, mais qui font, enfin, c'est pas des détails, c'est moins voyant.
Ouais.
Mais ça reste important. Quoi.
Je me demande si, je pense qu'on en parlait avant, mais je pense qu'aussi le Covid a bien aidé sur ça, parce que tout le monde était à la maison, enfermé, à avoir rien d'autre à faire que finalement s'occuper de la maison et faire du télétravail. Mmh. Et je pense que ça a pas mal aussi libéré la parole sur ce sujet-là, où en fait, c'est compliqué d'être tout le temps à la maison et de s'occuper d'une maison. Et genre, encore une fois, une vision très hétéronormée, mais le papa qui part travailler 8h, 18h, la maman qui a un boulot un peu moins grand, qui revient à la maison, qui fait tout, qui s'occupe des enfants, donne le bain, le père, il rentre, il a juste à manger et dodo. Et bien là, il s'est rendu compte... pendant le confinement, qu'en fait, il y avait un vrai boulot qui était à la maison aussi.
Ouais.
Je pense que ça a pas mal libéré aussi. Enfin, ça a pas mal libéré la parole sur ce sujet-là pendant le confinement. Au moins, certains l'ont vu à l'œuvre, que c'était compliqué.
Ouais, mais complètement, sur plein de sujets en plus. Hein, ça a permis de faire exploser des choses qui étaient pas normales, enfin, de les mettre vraiment devant de la scène, les amplifier, en fait. Et enfin, là, on était obligés d'être concentrés sur nous. On était nous, chez nous. Et du coup, ça permet de voir tout ça, quoi. Même, on en parlait tout à l'heure sur la santé mentale, c'est pareil. Ça a permis de voir qu'il y a des choses qui vont pas du tout. Et c'est aussi comme ça qu'on fait avancer les choses.
Mais il y a un avant-après pandémie, quand ça sera étudié, on l'étudiera à l'école dans quelques années, en vrai, même socialement... ça a été vraiment un véritable choc et bon en avant sur plein de trucs, mais aussi bon en arrière sur d'autres trucs. Il y a le côté positif
le bon
et négatif.
Et le moins bon. Hein.
Mais,
toujours mèche blonde, hein, qui est conseillé d'ailleurs de boire une petite gorgée de Javel.
Ah, hein. C'est vrai.
Ah oui, dans celui-là, je ne l'ai pas oublié.
Et il est président des États-Unis, c'est dingue.
Voilà, pardon, j'ai remis une couche, je suis un peu choqué, hein, je ne vous cache pas. J'espérais d'autres choses, mais voilà, j'en parlerai souvent. Juste un petit tac comme ça au Trump, hein. Hop là.
Ça fait jamais de mal.
Pas le bouton rouge, monsieur. Pas le bouton rouge.
Sur nous.
On donnera pas l'adresse. Et bien, en tout cas, c'est un plaisir de vous rencontrer, de vous avoir toutes les quatre autour de ce plateau. C'est génial. Vous avez des actions aussi? Vous faites des actions autres que celle-ci?
D'événements, tu veux dire, avec sur la vie.
De sensibilisation, de...
On commence à développer une partie formation pour les adultes, pour les professionnels. Sur demande, en fait, c'est... je ne sais pas si on peut encore trop spoiler, mais c'est un partenaire avec qui on travaille, qui, en fait, qui est en contact avec des enfants, qui s'est rendu compte que leurs professionnels, du coup, avaient du mal à recueillir la parole des enfants et sont venus toquer à notre porte, vu qu'on travaille avec eux sur les animations, pour nous dire comment vous faites pour que les enfants vous parlent. Donc, on va leur faire une formation, on va leur expliquer, enfin, leur montrer déjà... leur faire comprendre l'univers des enfants, parce qu'il y a une fracture générationnelle aussi.
Ben oui.
Qu'est-ce que c'est TikTok? Pourquoi on me dit que je suis un boomer? Qui puisse comprendre? Parce que c'est, enfin, faut que la communication soit fluide, quoi, pour qu'ils puissent entendre. Ouais. Et aussi, du coup, de faire découvrir un peu nos outils Projet Luna, l'éducation populaire aussi, c'est pas connu de tous encore. Pour comment nous on fait pour recueillir la parole. On peut vous donner des outils, on peut vous permettre aussi de co-construire vos propres outils avec nous. Donc si ça vous intéresse, ça les intéresse, donc on fera ça prochainement. On trouvait ça chouette aussi de pouvoir former des professionnels, parce que c'est, il y a beaucoup de demandes, on a l'impression, sur le territoire, c'est... Il y a beaucoup de problématiques, quoi. On est face à de l'humain et des humains qui ne vont pas spécialement bien non
c'est
plus.
Ça. C'est ça.
Donc il faut aussi pouvoir s'outiller pour répondre à ça.
Avec ses propres failles.
C'est important.
Il y a une vraie demande sur le territoire. Et moi, de parler d'une formation autour de notamment le numérique. C'est pour ça qu'elle parlait de fracture intergénérationnelle.
Générationnelle.
Je vais y arriver. Et la cyberviolence et le numérique, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est aussi un vrai, vrai sujet, un vrai, vrai besoin sur le territoire, notamment auprès des enfants, où en fait, à 6 ans, il y en a qui regardent Squid Game avec papa, maman, qui ne s'en rendent pas forcément compte. Ouais. Et qu'après, le gamin fait des cauchemars, et à l'école, il dessine que des dessins pleins de sang et de personnes qui se tuent. Ouais, pour l'avoir vu, c'est vraiment traumatisant, même pour nous, de voir ce genre de dessin. Donc, le monde du numérique et les enjeux, même féministes, c'est encore un énorme sujet. On pourrait faire une heure dessus.
Ouais, ouais.
Et c'est actuellement, on est le plus en plus sollicité sur ce besoin-là et sur notre activité et nos activités cyberviolence, comme je disais, un thème important et super, super demandé, hyper compliqué aussi, complexe. Et en même temps, là, encore une fois, il faut que les politiques s'en emparent parce qu'il faut régir tout ça. Mmh. Pour l'instant, c'est quand même les GAFAS, comme on les appelle, qui sont un peu les rois et qui gouvernent plus nos gouvernements que nous, on les gouverne. Donc,
C'est clair.
Mais voilà, c'est encore un autre thème. Et sinon, pour revenir sur nos événements, nous, on participe, comme je vous ai dit, donc là, on a participé à la caravane contre la violence sexuelle et sexiste faite aux enfants. Hier, on était au forum Inventer Demain de l'ESS à l'hôtel de ville. Donc en soi, dès qu'il y a des petits événements comme ça organisés par la mairie, des forums, vous pourrez nous retrouver. On est aussi situé au Rocher de Palmer à ce nom.
Oui.
Donc nos bureaux sont là-bas dans la pépinière d'association, ce nom qui fait pas mal de spectacles jeunesse, donc on peut faire des activités après spectacles jeunesse autour des droits des enfants, etc. Et puis là je pense que c'est pas mal, mais en soi si vous nous suivez sur les réseaux Insta Projet Luna, vous verrez, on met les stories avec tous nos événements à jour,
oui.
Vous pouvez nous retrouver là, pour la quinzaine de la qualité, on est pas mal occupés, on n'arrête pas.
On a fait des trucs hyper intéressants, On a pu participer à la fresque du sexisme avec la Manuco.
Ouais.
Donc, trop chouette. Enfin, un outil vraiment, je conseille.
Exactement.
C'est super chouette.
Participer aussi au cocktail de la soirée d'ouverture à la quinzaine de gaïté avec l'UNICEF. Mmh. On va faire demain, on fait 24 heures dans la peau d'une femme en compte. Pareil, c'est une activité où là, cette fois-ci, on est animé. On ne va pas animer, mais on est animé.
Ouais.
On va faire plein de trucs. Demain, moi, je suis à la table ronde à Bordeaux sur la soumission chimique.
Oui.
Voilà, donc j'ai ramené mon copain, yes. Oui. Ouais, c'est un vrai sujet avec, on le voit avec les viols de Mazan. Mm. Donc voilà, on fait plein de trucs.
Waouh, chargé.
Exactement.
Et la quinzaine, ouais, c'est vrai que ça a vraiment été un succès, je pense, non, quand même.
Il y a eu
beaucoup de choses. Hein. Après, pour les personnes qui ne sont pas du tout dans ce milieu associatif ESS, moi, quand j'en parle à mon entourage, ils ne sont pas trop au courant. Quoi. Je pense qu'il faut être un peu dans ce milieu-là pour connaître.
Ouais.
Après, ils développent de plus en plus leur communication et ils en ont conscience. Mais en tout cas, si on va où il y a un site mode où il y a tout de référencé.
Ouais, sur Bordeaux Métropole, il y a l'agenda. C'est comme ça
On s'est
rencontrés. On est rentrés en contact avec Pierre.
Il y a
tout ça. Mais c'est vrai que c'est toujours la même chose. C'est les personnes déjà sensibilisées qui vont se renseigner pour se sensibiliser davantage.
Ouais.
Mais d'où l'intérêt, du coup, de par exemple, de parler aujourd'hui, de se rencontrer, communiquer dans notre travail, d'interagir avec des publics.
C'est ça.
Pour ouvrir, encore une fois, donner toutes les possibilités.
Ouais.
Et ensuite, les gens sont libres de choisir ce qu'ils ont envie de faire.
Et c'est des événements gratuits, accessibles à tous, faits par nos super associations collègues.
Ouais.
Donc vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas y participer. Et c'est trop enrichissant. Et dans tous les cas, même si l'activité est moyen, et bien on rencontre plein de monde. Et, et c'est trop bien.
Ouais, et puis vraiment des activités hyper chouettes, des ciné-débats, enfin,
il y a tellement de choses.
Des pièces de théâtre, des conférences, des trucs trop chouettes. Il n'y a pas juste des fois les personnes, le salon, le forum.
C'est ça.
Pas envie, mais là, il y a des trucs hyper interactifs et ludiques.
C'est pas du tout descendant.
Cool. Ouais.
La semaine dernière, d'ailleurs, on avait Loubna de Cities Company à Lormont. Qui faisait un spectacle samedi là. D'ailleurs, j'espère que ça s'est très bien passé, mais j'ai vu dans le sud-ouest que oui, ça s'est super bien passé. Je leur envoie un petit bonjour. Elles vont revenir dans les personnages du théâtre, normalement.
Okay.
On met ça en place, ça sera génial. Mm-hmm. Et c'était dans ce cadre-là aussi, justement, la parole, donner la parole, en fait. Mm. C'est voilà, il faut continuer. Et même après la quinzaine, d'ailleurs.
Oui, tout le temps. La lutte continue.
Bah, sur Odo Radio, c'est vrai qu'on est assez sensibilisé sur ces sujets-là. Et du coup, on va être amené de toute façon. Alors, dans Pierre qui roule, l'émission de tout à l'heure à 16h, hein, soyez au rendez-vous, chers auditeurs. Mais on traite souvent des sujets un peu comme ça. Hein. Enfin, c'est des associations. De toute façon, on veut mettre en lumière aussi des associations parce que c'est des missions importantes. Et des associations qui peuvent être mises en danger avec la politique actuelle aussi. Exactement. Donc voilà, il y a tous ces trucs-là. Donc je pense qu'au contraire, il faut qu'on communique à fond.
Ouais.
Et c'est ce qu'on fait.
Ouais, et les médias ont un rôle de toute façon hyper important dans cette lutte-là.
Oui.
Et dans la mise en lumière, tout ce que tu viens de dire, c'est très vrai.
C'est important. Surtout les médias locaux.
Oui.
Merci Odo Radio.
Bon, bah, ça va être l'heure de nous quitter déjà. Il y a une heure qui est passée. Ça passe hyper vite.
Oui, ouais, grave.
Je vous remercie en tout cas toutes les quatre.
Et merci donc, beaucoup Projet pour l'invitation.
Projet Luna. Hein, et donc, on vous retrouve sur LinkedIn. On vous retrouve donc sur Insta.
Ah, oui, ça.
On peut venir vous voir au Rocher Palmer.
Oui. On peut
nous contacter par mail.
On peut contacter, ouais.
Mais sur Insta, il y a toutes les infos.
Ouais.
On peut nous contacter en DM.
Okay.
Voilà. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui sont intéressés par nos activités et nos formations, c'est avec grand, grand plaisir.
Super, le message est passé. Merci la team Mission Locale. Marie,
de rien, et Alexandra. Merci à vous.
Et je vous dis à tout à l'heure à 16h. Et puis nous, à très bientôt.
Exactement.
À bientôt, merci.
Au revoir, merci beaucoup.
C'était Jeunesse Influente, une émission présentée par et pour les jeunes, tous les mercredis 14h-15h, à retrouver en podcast sur eauderadio.fr.